Bonjour, bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassaigne. Je serai avec vous pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, en Alberta, la grogne monte parmi les professeurs et parents d'élèves francophones du primaire. Le projet pilote de la réforme M6, monté en secret.
C'est que le processus de création, d'élaboration de ce programme d'études a été fait largement en secret, avec des enseignants participants qui ont dû signer des ententes de non-divulgation. Nous savons pas vraiment le contenu des discussions qui a mené à l'élaboration de ce programme d'études spécifiquement pour nous amener là où nous en sommes aujourd'hui.
Une artiste d'origine sénégalaise parmi les finalistes du prestigieux et fort généreux prix Sobé, une bourse de 100 000 $ à la clé.
Comme artiste, j'aime apprendre des nouvelles choses, j'aime approfondir ma carrière en essayant des nouvelles choses et comme enseignante, professeure aussi, je pense que j'apprends aussi beaucoup des artistes, des jeunes artistes.
Et la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie a été soulignée le 17 mai dernier. Une jeune transgenre de la région d'Halifax partage son expérience.
Il y a beaucoup de ces femmes-là qui m'ont connue avant, m'ont vu grandir dans la communauté et qui ont toujours été beaucoup engagées dans la communauté. Il n'y a pas une personne qui dit un commentaire. Il n'y a personne qui care. Je pense que ça, c'est la meilleure chose que je peux dire. Le monde me voit et me voyons comme Zoé. Et c'est juste comme ça que ça l'est.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chética en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Alors, on se pose d'abord en Alberta, où la refonte d'un programme scolaire fait grand bruit. L'Alberta, où on va, dès cet automne, mettre à l'épreuve un nouveau projet pilote de nouveaux programmes scolaires en anglais, en mathématiques, en éducation physique et sexuelle. Mais ce projet pilote inscrit au curriculum scolaire semble déjà déplaire à de nombreux enseignants et parents qui s'opposent au nouveau programme surnommé M6, destiné aux élèves, il faut le dire, de la maternelle à la sixième année du primaire. On a même un peu manifesté publiquement son mécontentement dans quelques municipalités albertaines. Force est donc de constater que le programme rénové ne répond pas aux attentes des professeurs et parents. Le président de l'Association des enseignants et des enseignantes francophones de l'Alberta, Stéphane Kreiner, s'en est fait le porte-voix. Il nous explique pourquoi ce curriculum suscite autant de controverses dans le milieu.
Une des grandes raisons que le programme n'est pas satisfaisant aux enseignants, c'est que le processus de création, d'élaboration de ce programme d'études a été fait largement en secret, avec des enseignants participants qui ont dû signer des ententes de non-divulgation. Alors, nous savons pas vraiment le contenu des discussions qui a mené à l'élaboration de ce programme d'études spécifiquement pour nous amener là où nous en sommes aujourd'hui.
Et puis même si le ministère de l'Éducation avait justement organisé des rencontres avec des parents, des enseignants pour mieux adapter le nouveau curriculum scolaire pour l'automne, même avec toutes ces discussions-là, on n'arrive toujours pas à s'entendre.
Donc le contenu de ces discussions-là n'est pas encore public. Et il y a des révisions qui se font en ce moment par les enseignants pour voir exactement quels changements ont été actuellement implémentés depuis les propositions, les brouillons qui étaient là lancés au mois de mars 2020 jusqu'au produit final que nous sommes maintenant. On est en train de faire des comparaisons pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais le gouvernement pourrait simplement nous fournir cette information-là aussi, de voir spécifiquement quels changements ont été faits depuis pour quelles raisons les changements ont été faits depuis ces débauches-là. Ultimement, les enseignants continuent d'enseigner le programme scolaire de l'Alberta tel que prescrit dans le Teaching Profession Act, je crois que c'est, ou l'Education Act, je ne sais plus lequel spécifiquement. Donc, ce sera un processus de loi. Les enseignants vont enseigner ce qu'ils doivent enseigner car ils sont les professionnels ultimement. Par rapport à s'ils sont d'accord ou pas avec ce programme-là, ça, c'est une autre question.
Par rapport au programme d'éducation physique, il y aurait un volet d'éducation sexuelle et de littératie financière. Ça va s'appliquer là, pour les élèves de la maternelle à la sixième année. Est-ce que c'est un petit peu trop jeune d'enseigner ces matières-là à des jeunes de maternelle et sixième année?
Donc, ce qui est arrivé ici, c'est qu'ils ont pris les programmes qui sont actuellement le programme d'éducation physique, le programme de santé et bien-être, et les ont amalgamés dans un gros programme qui sera maintenant l'éducation physique et bien-être. Et dans ce programme d'études-là, il y aura maintenant des compétences en littératie financière et de l'éducation sexuelle. Donc, c'est pas comme on fait l'insérancement sexuel dans le gymnase maintenant, c'est pas du tout ça. C'est plutôt que c'est ce qui est présentement dans le programme santé et dans le programme d'éducation physique sont amalgamés. la réalité, c'est que les enfants ont besoin d'apprendre plusieurs de ces concepts-là. Je vais donner l'exemple en littératie financière. On commence à parler des cartes de crédit en quatrième année. Par rapport à si c'est une bonne idée ou pas, c'est un peu difficile parce que quand on parle de crédit, c'est forcément des nombres, des concepts mathématiques qui pourraient dépasser un petit peu les enfants en quatrième année. On verra si ça fonctionne ou pas. Ce serait beaucoup plus facile de vous donner une rétroaction si on avait eu la chance de piloter ces programmes d'études-là dans les écoles, spécifiquement les écoles francophones, mais nous n'avons pas piloté parce que nous n'étions pas d'accord avec le contenu en large des programmes.
Est-ce que vous avez eu des réactions des professeurs d'éducation physique?
J'ai reçu quelques mentions des profs d'éducation physique qui sont plutôt inquiets par rapport au changement. Présentement, ils ont un programme d'éducation physique, ils enseignent l'éducation physique dans le gymnase. Avec l'amalgamation des deux programmes d'études de santé et bien-être et d'éducation physique, leur position est un peu moins claire maintenant. C'est pas complètement clair pour eux autres quels seront les changements. Est-ce qu'il y aura une composante en salle de classe spécifiquement? Ces détails-là ne sont pas encore assez clairs pour nos enseignants. Le plan de la ministre de l'Éducation, c'est d'implémenter ce programme d'études pour l'année scolaire 2022-2023, dans les niveaux qu'on a discutés. Elle a le pouvoir de changer cette décision-là, mais de ce que je sache, le plan, c'est d'enseigner ce programme-là et ça semble aller à 100 000 à l'heure pour l'implémentation en septembre 2022.
Monsieur Stéphane Craner, qu'est-ce qui vous inquiète par rapport à la transition du nouveau curriculum scolaire?
Une des choses qui m'inquiète vraiment, Vincent, c'est par rapport aux ressources puis à la préparation des enseignants spécifiquement dans le francophone. Parce que, comme je l'ai mentionné, il n'y a aucun conseil scolaire francophone qui a piloté ce programme. Et pour bonne raison, le programme n'était pas adéquat tel qu'élaboré dans les débauches. Donc, nous n'avons pas ces pilotages-là. On n'a pas ces expériences-là. La transition va être rendue difficile. Et présentement, il y a un manque de ressources disponibles aux enseignants en français qui m'inquiète énormément aussi. Donc, je suis vraiment inquiet par rapport à ce qui sera exigé de nos enseignants pour se préparer pour ce programme d'études ici. Que ce soit le manque de ressources, le manque de temps, le manque de préparation pour les élèves également. On parle d'un nouveau programme qui sera implémenté à trois niveaux et ça va être difficile de répondre aux besoins individuels des élèves lorsqu'on enseigne de la matière qui est non pilotée.
Merci beaucoup, Stéphane Craner, président de l'Association des enseignantes et des enseignants francophones de l'Alberta.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Anna Binta Diallo est une artiste visuelle née à Dakar. Madame Diallo a grandi à Saint-Boniface, au Manitoba. Elle est aussi professeure adjointe à la Faculté des beaux-arts de l'Université du Manitoba. Mais elle se trouve surtout à être l'une des finalistes du prestigieux prix Sobe. Depuis 2002, le prix Sobe pour les arts a récompensé de nombreux artistes visuels canadiens œuvrant en art contemporain, des artistes qui ont moins de 40 ans. Les prix Sobe sont décernés chaque année. Ils soulignent la qualité du travail d'artistes de cinq régions du pays, soit de la côte ouest et du Yukon, des prairies du Nord, de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique. Et ils sont internationalement reconnus, notamment parce qu'ils offrent l'une des plus généreuses bourses aux artistes. Anna Binta Diallo se réjouit d'être l'une des 25 finalistes de ce concours d'art contemporain, car elle court la chance de gagner une bourse de 100 000 $ en plus de voir ses œuvres exposées au Musée des beaux-arts du Canada. Quatre bourses de 25 000 $ seront aussi décernées et les autres finalistes se verront elles aussi, remettre une bourse de 10 000 $. Anna Binta Diallo explore plusieurs médiums et sa vision et sa sensibilité artistique ont de toute évidence touché les jurys des prix Sobe. Notre nouvelle collaboratrice, Aurélie Nana Forson, a le plaisir de s'entretenir avec Anna Binta, qui nous parle de son parcours et de son expérience en tant qu'artiste.
Félicitations, Anna Binta. Comment vous sentez-vous par rapport à cette nomination?
Merci beaucoup. Je me sens très fière et comblée aussi, et heureuse d'être reconnue pour un prix si prestigieux et un prix qui est très généreux aussi. Et surtout d'être à côté d'autres artistes que j'admire aussi beaucoup.
Quel a été le processus pour déposer ta candidature au prix Sobe?
C'est ça. Chaque année, le prix Sobe invite à la communauté artistique de nominer un artiste. Alors, tu dois travailler avec un artiste doit travailler avec quelqu'un qui doit te supporter, soit un travailleur culturel dans une galerie ou un commissaire. Et cette personne écrit une lettre de nomination et l'artiste doit aussi envoyer un portfolio de ses œuvres récentes. Et puis, il y a un jury qui va évaluer tous les dossiers c'est un jury indépendant et c'est eux autres qui déterminent la liste préliminaire et la liste des finalistes et aussi le lauréat du prix.
Comment arrives-tu à concilier ta carrière d'artiste avec celle de professeur?
C'est une bonne question. Je pense que comme artiste, j'aime apprendre des nouvelles choses. J'aime approfondir ma carrière en essayant des nouvelles choses. Et comme enseignante, professeur aussi, je pense que j'apprends aussi beaucoup des jeunes artistes qui commencent leur carrière aussi. Et je pense que j'apprécie beaucoup cet échange. Moi, j'ai des connaissances que j'ai eues en travaillant dans les arts pendant longtemps. Donc, j'aime aussi passer mes expériences à eux. Et je pense qu'on est aussi encouragé de continuer nos recherches pendant qu'on enseigne aussi. Donc, je pense que c'est comme... il faut avoir un juste équilibre entre ta propre pratique et aussi essayer de partager avec les autres. Donc, c'est quand même un équilibre qu'il faut travailler aussi, mais je pense que c'est ça.
Est-ce que tu as un médium artistique de prédilection?
Comme vous avez dit à l'introduction, je me considère une artiste comme interdisciplinaire, multidisciplinaire. J'aime beaucoup essayer des nouvelles choses. J'aime beaucoup utiliser la technologie dans mes œuvres. Comme quand je dis la technologie, ça veut dire peut-être que je vais utiliser des logiciels de design pour faire des illustrations et ensuite incorporer d'autres matériaux. Et je suis aussi intéressée au collage. Depuis longtemps, j'utilise beaucoup le collage. C'est pas vraiment un médium, mais c'est comme une technique que j'utilise soit dans la vidéo ou avec la photographie ou avec le découpage et même en installation et en sculpture.
Dans ton processus de création, peut-être, est-ce que c'est le collage que tu aimes le plus durant le processus ou est-ce qu'il y a aussi d'autres parties qui te donnent plus de contentement que les autres?
Je pense que dans mon processus de création, il y a toujours plusieurs étapes qui se suivent naturellement. Souvent, j'ai une idée et ensuite, je commence à ramasser des choses. Donc, je commence à ramasser des photos, des images. Je commence à collectionner une collection de choses qui va m'aider ensuite à passer à la prochaine étape, qui serait de voir comment est-ce que je peux mettre tous ces éléments trouvés ensemble pour faire quelque chose de nouveau. Je pense que des fois, quand je fais ça, souvent, j'ai un plan dans ma tête, mais à la fin, j'arrive à quelque chose qui était un peu différent de ce que j'avais en tête. Et j'aime beaucoup cet aspect aussi dans la création. C'est que des fois, on s'attend pas à ce qu'on va faire, même si on a un plan. Et moi, je commence toujours de cette façon avec une collection de mots, d'images, d'idées. Et là, je pars avec ça et je suis mon intuition et je continue à voir qu'est-ce que ça va être quoi le produit final.
C'est vraiment un processus de création qui se développe sur l'inconnu. C'est vraiment l'inattendu. C'est très intéressant. Je pense aussi que ça peut être une des choses qui a peut-être séduit le jury. Qui sait?
Ah, peut-être.
As-tu un conseil à donner pour les artistes inconnus qui souhaitent se lancer professionnellement? Parce qu'on sait dans notre communauté qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très enthousiastes par rapport à l'art, par rapport à la création, mais qui n'ont pas nécessairement soit les connaissances ou bien soit la confiance en soi pour essayer de se faire découvrir.
Une des choses qui est très importante, c'est d'aller voir beaucoup d'art aussi, aller dans les galeries, aller visiter les galeries, aller visiter les centres d'artistes. Parler avec d'autres artistes, ça aide beaucoup, juste pour voir les différentes expériences, parce que tout le monde a des expériences différentes. Donc, je pense que c'est très important aussi de étudier l'art, alors prendre des cours, ou bien si tu décides de faire une carrière, peut-être regarder à des cours plus approfondis. Mais aussi, je pense, une chose, ce serait juste de rester authentique au choix. Quand tu veux faire un projet d'art, je pense que c'est important de rester comme authentique à tes propres idées, comme pas te laisser être influencé des idées des autres, comme poursuivre la recherche qui t'intéresse et continuer à être curieux ou curieuse. Je pense que ça aide aussi à la persévérance. Et puis ça, ça peut aider à comme développer une carrière artistique, c'est de rester authentique et curieux et persévérer.
Merci beaucoup. Ça aide toujours d'avoir les mots de quelqu'un qui a réussi à s'imposer sur le milieu. J'espère que cela va justement motiver nos auditeurs qui sont férus d'art et de création à peut-être finalement partager ce qu'ils sont en train de créer avec le monde. On a envie d'en voir plus.
C'est ça.
Ben, franchement, merci beaucoup pour cette entrevue et merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et puis, pas de problème. On vous souhaite une bonne réussite et puis on espère que vous allez décrocher votre prix.
Merci beaucoup.
Mais bonne journée.
Souligné le 17 mai dernier la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, un événement qui a vu le jour en 2003 au Québec grâce à l'initiative de la Fondation Émergence. Le 17 mai est aujourd'hui célébré dans de nombreux pays. Oui, nous avons pris du retard depuis le 17 mai, on l'avoue, mais on se disait que ce n'était pas une raison de la passer sous silence. Et on la souligne à notre manière grâce à notre journaliste Sébastien Beltran, posté à Halifax et qui a recueilli le témoignage de Zoé Como, une femme transgenre impliquée dans sa communauté et qui reconnaît avoir eu de la chance durant sa jeunesse, la chance d'avoir grandi dans une communauté tolérante et compréhensive. Zoé Como, femme transgenre, nous offre ici son témoignage.
Bonjour Zoé.
Bonjour, ça va bien?
Eh bien écoute, je suis ravi de t'avoir en ligne. C'est la première fois que nous discutons ensemble. Comment vas-tu?
Ça va pas mal bien. C'est un peu gris aujourd'hui, mais j'espère que le soleil va en ressortir.
J'espère qu'on en sortira quelque chose de positif. En tout cas, moi, ce que je voulais, c'est mettre en avant un petit peu le combat de la communauté. Donc, en préambule, je voulais dire que le 17 mai 1990, l'Organisation mondiale de la santé retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Alors, 32 ans après, on aurait pu imaginer que l'homosexualité et que la dysphorie de genre deviennent un non-sujet. Et pourtant, on en parle toujours. Alors, ma première question est la suivante. Comment le vis-tu au quotidien? Est-ce que ça t'arrive d'être confronté à des remarques, à des regards ou à de la violence de façon générale?
Ben, c'est intéressant. Quand moi, j'ai fait mon coming out, ça a été pas mal simple. Ouais, ma famille m'a accepté. Au lieu de travail où ce que je travaillais, j'étais la troisième personne d'être sortie comme étant une personne transgenre. Je travaille dans la communauté artistique où du monde de ma communauté, on est beaucoup bien accepté et célébré. C'est ce que je vois le plus, c'est du monde qui ont des questions et que dans l'intérêt d'être poli, ils les demandent pas, mais à la fin de la journée, il y a un genre de tension qui se fait créer dans ces points-là. Que je sais que tu as une question, je le vois dans ton visage, je l'entends dans ta voix. Parfois, en essayant de pas offusquer les gens, ça se passe quand même. Ça se passe d'une différente manière, comme une petite micro-agression. C'est un malaise. C'est la même manière que lorsque le monde ou ce que je connaissais avant, quand je lui donnais des câlins, maintenant, quand je les donne des câlins, ils sont beaucoup plus rigides. C'est comme qu'ils ont peur de me toucher parce qu'ils veulent pas faire de quoi de mal. Ils veulent pas me toucher de manière incorrecte. Le monde ne veut pas s'adresser à moi de manière incorrecte. Il y avait un gars, c'était étrange. Et je dis que c'était étrange à cause que c'était pas méchant. Je l'ai rencontré pour la première fois. J'étais dans une pièce de théâtre où j'étais très bien habillé, j'étais en belle robe, je m'ai présenté comme étant Zoé. Tout était simple, mais au cours de la soirée, il continuait de m'adresser avec les pronoms masculins. Et je l'ai dit à un certain point, je suis comme, tu sais que je suis une femme, right? Puis sa réponse était, oh, désolé, j'ai toujours besoin de m'habituer à ça. Je suis comme, t'habituer à quoi? Tu m'as rencontré il y a comme une demi-heure. Tu m'as juste connu comme Zoé. C'est pas comme que tu m'as connu pendant les 26 dernières années puisque j'allais par un autre nom. C'est des choses de même que je trouve juste malaisant. Le plus longtemps que je m'identifie comme étant Zoé et que je m'identifie comme femme, le plus que ça fait mal quand le monde utilise les mauvais pronoms. À cause, il y a un genre de sentiment que tu ressens que tu as fait tellement un gros parcours et là, avec un « il », tout ce cheminement-là que tu as fait, tout le travail personnel que tu as fait est juste parti d'un seul coup.
En effet, je m'identifie peut-être un peu à ces gens-là où on a peur de blesser ou en tout cas, on a peur de déranger. Et effectivement, je crois que tu as raison, ça crée peut-être un malaise. Enfin, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'aborder le sujet. Enfin, si ça peut soulager de crever l'abcès, est-ce que le gouvernement en fait assez en matière de droits pour cette communauté? Est-ce que vous pouvez vivre pleinement? Ou est-ce qu'il y a quand même des discriminations qui vous empêchent, je ne sais pas, l'emploi?
Moi, il y a au-dessus d'un an que j'ai mis ma soumission pour avoir un changement de nom et le changement de marqueur de sexe sur mon certificat de naissance. Je viens tout juste de l'avoir. Ça a pris un an pour avoir ce changement-là. Et même juste pour avoir accès à des hormones, il y a tellement de différentes barrières qu'il faut sauter à travers. Et c'est même encore plus pire si tu veux avoir une chirurgie d'affirmation du genre. Tu as besoin d'une lettre d'un psychiatre, tu as besoin de deux lettres de médecins généraux, des gens qui attestent que tu as vécu comme le genre que tu décrives, que tu vives pendant plus qu'un an. En Nouvelle-Écosse, et au Canada, la chirurgie est payée par les soins médicaux, mais ce qui n'est pas couvert, c'est genre la féminisation de la face et les hormones ne sont pas couvertes. Juste pour avoir des petites pilules pour te faire sentir correct et bon dans ton corps, ça coûte tellement cher, tellement difficile à avoir accès aux hormones et avoir accès à la chirurgie. Que je pense qu'il y a toujours beaucoup de travail qui peut se faire là-dedans.
Donc moi, je suis un peu surpris par ce témoignage. Je m'attendais à ce que tu me dises qu'il y avait des problèmes avec la communauté. On pourrait penser que c'est plutôt agréable et encourageant.
Oui, c'est beaucoup plus agréable et encourageant que le monde y croit. Mais l'affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est même si tu es une femme transgenre, t'es une femme et il y a beaucoup plus de problèmes dans ces cas-là. Comme moi, je m'ai fait catcaller des commentaires sexuels faits envers moi. Ça n'a rien à faire avec mon identité de transgenre, mais ça a beaucoup à faire avec le fait d'être une femme. Et il y a beaucoup d'agressions qui se font envers les hommes transgenres, spécialement quand ça vient aux salles de bain et tout ça, là. On se retrouve vraiment dans un temps exceptionnel où ce que être transgenre, c'est pas la fin du monde. C'est vraiment de quoi d'inspirant et il y a tellement un gros support dans la communauté, le monde qui te voit comme que toi tu te vois et c'est vraiment beau.
Alors toi, je sais que tu es très impliqué justement pour la cause des femmes. Tu fais partie de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce qu'elles disent les femmes? Quelle est leur témoignage quand on parle justement de ces sujets, comment elles le vivent, elles?
Moi, ce que je trouve le plus impressionnant et le plus hallucinant de travailler avec la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, il y a beaucoup de ces femmes-là qui m'ont connu avant, m'ont vu grandir dans la communauté et qui ont toujours été beaucoup engagées dans la communauté. Quand c'était avec le conseil jeunesse, avec la FECAN, il n'y a pas une personne qui dit un commentaire. Il n'y a personne qui care. Et je pense que ça, c'est la meilleure chose que je peux dire. Le monde me voit et me voyons comme Zoé. Et c'est juste comme ça que ça l'est. C'est exceptionnel parce que c'est des femmes quand même qui sont plus âgées. Du monde comme moi, sont un peu nouveaux dans leur sphère de vie.
Absolument.
Mais ils ne me traitent aucunement différent que qui que ce soit d'autre.
Qu'est-ce que tu aurais à dire pour les personnes justement qui se posent des questions, qui ont des doutes? Tu leur conseillerais quoi?
Vas-y à ton propre coup. C'est vraiment un choix personnel, quelque chose de très spécial que vous ressentez. Il n'y a rien de mal avec qui vous êtes et il n'y a rien de bizarre, de méchant. Moi, ça m'a pris 26 ans. pour certains, ça prend plus longtemps et pour certains, ça prend moins longtemps. Mais il n'y a jamais un bon ou un mauvais moment de faire son coming out. Je veux juste m'assurer qu'on comprenne. Moi, mon cas est très unique. Je ne suis pas l'histoire des personnes transgenres en Nouvelle-Écosse. J'ai grandi d'une manière privilégiée. J'ai grandi dans une communauté acceptante. Je fais du travail dans une communauté très acceptante. Il y a de la difficulté et ça existe. Et il y a de l'homophobie et il y a de la transphobie. C'est juste, ça n'a pas été mon propre vécu et je suis vraiment content de ça. Mais je suis aussi très reconnaissante qu'il y a toujours du travail à faire et qu'il y a toujours une communauté de gens qui sont fâchés pour aucune raison envers les gens homosexuels, transgenres. Il y a du travail à faire, mais je voulais juste m'assurer que tout le monde sache qu'il y a de l'espoir et que ce n'est pas toute la noirceur.
Merci. Merci Zoé pour ce message. Je rappelle que tu es directrice artistique du Théâtre des Assimilés et militante active pour le droit des femmes. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se parler pour d'autres sujets. En tout cas, tu sais que tu es la bienvenue à la radio.
Parfait, mais merci beaucoup Sébastien.
Merci Zoé.
Rappelons que le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau réforme le code criminel et décriminalise les actes homosexuels au Canada le 14 mai 1969. Depuis cette date, les droits des personnes homosexuelles et transsexuelles ont fait des progrès, du mariage pour tous à la modification du sexe à l'état civil, en passant par une meilleure protection des personnes vivantes avec une dysphorie de genre. Aux yeux de plusieurs, le Canada fait d'ailleurs figure de pionnier pour les droits accordés à la communauté LGBTQ+. En Nouvelle-Écosse, les membres de la communauté bénéficient de conditions favorables pour leur épanouissement personnel. Zoé Comeau, cette femme transgenre qu'on écoutait, reconnaît que son parcours a été bien compris et accueilli par son entourage, mais tous n'ont pas cette chance. Et bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On vous invite à consulter, comme d'habitude, notre site web où vous pouvez lire et écouter surtout tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers tout le pays. Rendez-vous sur canada-info.ca, canada-info.ca. Et si vous êtes bilingue, mais ça tombe bien, on a des journalistes qui travaillent en français, en anglais et maintenant aussi en espagnol. On ne vous présente à cette émission qu'une infime partie de ce qui est produit chaque semaine chez nous. Ne ratez pas ce rendez-vous de l'information locale. Retrouvez-nous aussi sur Twitter @CanadaLJI, CanadaLJI, et écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes préférées, de même que sur notre site Internet. On remercie nos journalistes Sébastien Beltran, Vincent Savard et Aurélie Nana-Forson, de même que notre coordonnateur national Stéphane Bénard. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous.